de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Nous sommes revenus de Cannes, nous y étions avec Sophia, une partie de l'équipe donc, et nous allons commenter le palmarès qui est tombé, bien évidemment. Ce sera en première partie de l'émission, et puis toi, Guillaume, tu vas faire le relais de Cannes, puisque tu as vu un des films qui était en compétition.
J'en ai même vu deux, j'ai vu le Rodrigo Sorogoyen, dont je vais vous parler plus en détail, j'ai aussi vu un film un petit peu similaire, hein, c'est celui de Pedro Almodovar.
Toi, Sophia, tu auras un autre film.
Oui, je vais vous parler de Cocotte, hein, le film de Georgie Palfi, hein, qui suit une poule.
Et puis moi, je vous parlerai d'un petit Jedi, en tout cas potentiellement, hein, puisque je vous parlerai de Mandalorian and Grogu. Mais nous commençons par le débriefing du Festival de Cannes.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Vous le savez sûrement, la Palme d'Or a été remportée par Fjord, réalisé par Christian Mungiu. Alors, il se trouve que cette année, on a à peu près vu tous les films qui ont été récompensés. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Oui, voilà. Très bon palmarès de notre côté.
Ouais. Et toi, justement, tu l'as vu, Fjord?
Oui, j'ai vu Fjord. Et donc, il s'agit de la deuxième Palme d'Or pour Christian Mungiu, hein, 19 ans après son 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Et il rejoint un club très fermé, hein, composé de Coppola, des Dardenne, d'Haneke, de Ken Loach et d'autres, hein, les cinéastes auxquels Cannes a dit deux fois oui. Et bon, c'est plutôt mérité dans ce cas-là. Hein. Fjord, c'est Mungiu qui sort de Roumanie pour la première fois, donc un film en norvégien, anglais, tourné dans un village au bout du monde, dans une Scandinavie de cartes postales qui s'emploie, il s'emploie méthodiquement à faire voler en éclats ce petit décor parfait. Renate Reinsve et Sébastien Stan incarnent donc les Georgiou, un couple roumano-norvégien qui s'installe avec ses 5 enfants dans ce village isolé. Tout va bien jusqu'à ce qu'on découvre des ecchymoses sur leur fille aînée, et c'est parti pour un engrenage écrasant. Alors moi, j'ai beaucoup pensé à La Chasse de Thomas Vinterberg en regardant ce film, même mécanique du soupçon, avec cette façon dont une communauté se referme sur elle-même comme une huître, mais là où Vinterberg traitait de la parole d'un enfant contre celle d'un adulte, Mungiu s'attaque à quelque chose d'un peu plus trouble, hein, la frontière entre la tradition et la maltraitance, entre l'éducation et la violence, une fessée, un geste qui, dans une culture, peut paraître banal, dans une autre, devient preuve à charge. Le film est vraiment froid, clinique, presque glaçant, véritablement glaçant en vérité, et il met très mal à l'aise, hein, ce qui est exactement son intention, et c'est aussi un peu un film de procès, un film de romance adolescente aussi, et un film sur notre incapacité collective à faire communauté dans la différence. Bon, un film super intéressant à voir à un moment où la peur de l'étranger est devenue un argument politique respectable et où l'altérité suffit à faire de vous un suspect.
Ce film, Fjord, de Christian Mungiu, donc La Palme d'Or, sera projeté dans les salles françaises au mois d'août. Le Grand Prix, lui, donc ce qu'il y a juste en dessous, hein, La Palme d'Or, a été décerné à Andrei Zviavintsev pour Minotaur. Alors, il faut savoir que le réalisateur russe a tout le temps eu des prix à Cannes, jamais la Palme d'Or, en revanche, mais il s'approche hein, quand même. Et parmi les longs films de ce festival, Minotaur est probablement celui qui a besoin de temps hein, pour étendre son récit afin de montrer comment un homme à qui l'on veut prendre des ouvriers pour les emmener au combat et qui apprend que sa femme, dans le même temps, a un amant, eh bien, va choisir les pires solutions pour s'en laver les mains, comptant sur un pays où le monde politique et la justice sont corrompus. Il s'agit bien de la Russie, oui, c'est de ce pays dont nous parlons. Alors, comme toujours, d'écriture avec Ziavintsev, la mise en scène est ample, il prend son temps hein, pour étirer les séquences, mais sans aucune lourdeur, il aime suivre les personnages et également quand ils sont seuls. C'est d'ailleurs l'une des meilleures séquences du film, le réalisateur arrivant à mettre tous les enjeux en quelques minutes. Alors c'est un prix qui est mérité si on veut, en tout cas c'est pas un mauvais film, mais bon, moi j'avoue que je suis pas totalement ravi par ce palmarès 2026.
Может, вечером сходим куда-нибудь?
Сегодня?
Например?
С чего вдруг?
Ensuite, nous avons le prix de la mise en scène. Alors là, c'est ex aequo, c'est La Bola Negra de Javier Calvo et Javier Ambrosi, et puis Faverland de Pavel Pavlikovski. Ils n'ont pas pu départager ces deux films. Alors ça, ce sont vraiment deux films opposés, parce qu'il y en a un qui dure 2h35, c'est le film espagnol, quand le film du polonais, lui, dure 1h22. C'était le film vraiment le plus court, et c'est même très rare hein, de trouver un film de moins d'1h30 à Cannes. Deux fois moins long, mais tout aussi percutant. Mais on va commencer quand même par parler du duo espagnol Javier Calvo et Javier Ambrosi, qui s'intéresse à trois récits en 32, 37 et 2017, avec un fil conducteur, c'est Garcia Lorca, et un ouvrage jamais publié présentant un personnage homosexuel évidemment impensable à son époque. Hein. C'est le ton du mélodrame qu'empruntent les réalisateurs espagnols, mettant en scène la relation entre un sympathisant fasciste qui s'éveille à l'homosexualité et son prisonnier blessé, promis à être fusillé. Et puis le personnage de 2017, lui, va éclairer cette histoire d'un nouveau jour pour faire basculer le récit. Et ça, ça permet de faire passer les 2h35. C'est pas un film que j'ai forcément très apprécié, mais j'ai imaginé très facilement qu'il puisse avoir un prix, et il l'a eu. Alors, autre ambiance pour Faverland, réalisé par le remarquable Pavel Pavlikovski, celui qui avait fait Cold War. Alors c'est sûrement le film le moins accessible du festival, j'ai envie de dire. Tout le monde ne va pas s'y retrouver. On suit le voyage de Thomas Mann en 1949 en Allemagne. L'écrivain prix Nobel est accueilli par les deux blocs. Alors à l'ouest, c'est musique et champagne, mais aussi paire de claques donnée par la fille de Mann à son ex-mari qui a collaboré avec les nazis. Donc chacun règle ses comptes. Et puis du côté de l'est, eh bien, c'est chorale et découverte de l'existence de camps de prisonniers politiques. Joseph Staline n'est pas mort. Et comme le dit le fils de Mann dans l'ouverture de ce film, on nous demande de choisir entre Staline et Mickey Mouse. Le film décrit ce monde qui s'est déjà construit donc entre deux blocs, en liant l'Allemagne à ses grands noms. Il y a Goethe, Kant, Hegel et d'autres, un pays pétri d'une grande culture qui a viré dans l'horreur. Dans le même temps où Mann est reçu comme un chef d'État, on saisit aussi ce qui le sépare de ses enfants, sa fille qui le suit et son fils qui la fuit. Le noir et blanc alors serre le propos, dans une séquence troublante d'ailleurs, on ne sait si le corps de sa fille sur un lit d'hôtel est vivant ou mort tant il est sombre. L'émotion est véhiculée à la toute fin par la musique, celle de Jean-Sébastien Bach, dans une scène d'une grande beauté et en même temps d'une grande simplicité. Un morceau joué à l'improviste dans une église qui a tenu le choc des bombardements et deux mains qui se joignent comme une promesse que le pire est derrière. C'était vraiment un film remarquable et comme quoi on peut dire les choses en très peu de temps. Le prix du scénario, on y vient. Alors c'est très étonnant, j'aurais plutôt mis le prix de la mise en scène au film du français Emmanuel Mar pour Notre Salut. C'est un film qu'on a vu tous les deux, Sophia. C'est un film qui traite de cette période de l'occupation. C'était pas le seul film hein, puisqu'il y a eu le film Moulin, mais là on suit un ingénieur qui a écrit un livre sur le management, mais un peu précurseur. Il n'a pas été compris, donc il cherche à gravir les échelons. Il est plutôt pétiniste, il s'affirme pétiniste, et on voit comment il va faire son travail dans la France de Vichy. Mmh. Et surtout, on va voir comment il se compromet finalement.
Oui, voilà, c'est un portrait finalement assez clinique de la collaboration vue de l'intérieur, mais à hauteur du petit fonctionnaire hein, qui travaille en périphérie, hein, à Limoges, au commissariat à la lutte contre le chômage, et qui va prendre des décisions bien malheureuses, justement en travaillant de manière très efficace, en rationalisant le travail à toutes les étapes, hein, quitte à participer à mettre dans des camions des Juifs pour les déporter vers les camps de concentration. Donc vraiment, super intéressant comme point de vue d'être en immersion de ce côté-là, hein, du côté de la collaboration finalement, de la collaboration fortuite, un peu malheureuse, un peu malgré lui, hein, malgré ce Henri Marc, qui est d'ailleurs l'arrière-grand-père du réalisateur lui-même, hein, et qui, en découvrant la correspondance de celui-ci, hein, d'Henri et de sa compagne, donc l'arrière-grand-mère, a percé le secret de famille, en fait, hein, et ce secret qu'est la collaboration d'Henri.
Voilà. Et c'est sans doute pour ça qu'il a eu le prix du scénario. Hein. C'est parce que c'est à partir de ces lettres qu'il a bâti son film. Et je parlais de la mise en scène parce que finalement, les gens parlent comme à notre époque. La musique, c'est la musique des années 90. Enfin, voilà, il y a quand même un décalage temporel qui peut faire peur parce que, enfin, une des intentions du réalisateur, c'était de dire, mais finalement, ce qui se passait à cette époque pourrait se repasser actuellement.
Il y a juste le coiffeur du 18 qu'on soupçonne d'être communiste. Il y a aussi le couple de la droguerie carré, vous savez. Il se la joue toujours, je fais pas de politique, etc. Donc on a mis deux équipes devant. S'il y a un problème, on les intimide. Alors, c'est très bien que vous preniez des initiatives, mais c'est mieux que je suis au courant. Je veux dire, vous m'en parlez d'abord.
Le prix du jury, lui, a été décerné à L'Aventure rêvée, réalisé par Valeska Grisebach. Alors ça, c'était le film le plus long, en revanche, 2h48. Et c'est moi qui l'ai vu. Alors, c'était pas un film totalement désagréable, mais il aurait mérité de durer un peu moins longtemps. Alors le problème, c'est qu'il était dans une veine naturaliste avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels, donc on ne pouvait pas compter sur un jeu remarquable. Mais il n'empêche que ce film vaut par le personnage, un des personnages principaux, qui est une femme qui n'a peur de rien et qui se retrouve dans des situations où finalement, avec ses yeux et avec son comportement, où on découvre que la Bulgarie, depuis les années 90, est aux mains donc, de la mafia et des escrocs, et qu'à notre époque, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Enfin, c'est un film, ça mériterait beaucoup plus de temps pour en parler, mais nous n'avons pas ce temps, donc on attendra qu'il sorte sur les écrans pour en dire davantage sur ce film donc, qui a obtenu le prix du jury. On parle rapidement du prix d'interprétation masculine parce que c'est un film que tu as vu, c'est Coward.
Oui, donc Coward de Lucas Dont, et tu parlais justement du jeu d'acteur qui n'est pas forcément incroyable lorsque ce sont des jeunes premiers qui se retrouvent avec des rôles importants. Et dans Coward, justement, il y a un Belge de 20 ans, Emmanuel Macia, qui a remporté donc ex aequo avec son partenaire de jeu ce prix d'interprétation masculin. Donc ce Emmanuel Macia, il signait là son tout premier rôle au cinéma, sans formation d'acteur, sans expérience notable, et donc l'a repéré dans la cantine de son école d'architecte paysagiste, en cherchant, dit-il, un jeune homme avec une gestuelle propre au travail agricole. Donc il a vu en lui quelqu'un avec une âme hypersensible, mais qui n'osait pas encore utiliser complètement sa voix. Donc voilà, face à lui, Valentin Campagne, 22 ans, lui, qui avait déjà connu la compétition cannoise l'année précédente dans Dossier 137 de Dominique Moll. Donc deux trajectoires vraiment aux opposés, mais qui donnent à l'écran une complicité incroyable, et donc des jeux d'acteurs qui méritaient de repartir avec un prix.
Voilà, et l'autre prix, donc interprétation féminine, c'est pour Virginie Efira, et ça part d'un air de jeu, Tao Okamoto, pour le film Soudain de Hamaguchi. Voilà, on en a terminé avec ce 79e Festival de Cannes, quoique pas tout à fait, puisque nous allons parler maintenant du film de Sorogoyan.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Alors, il a failli y avoir un combat des titans sur la croisette, et chose originale, il aurait été ibérique. Alors, pourquoi failli ? Tout simplement parce que la guerre des deux n'aura pas lieu, vu que ces deux réalisateurs à la même nationalité, explorant le même milieu, n'ont rien gagné. Il s'agit de la désormais vieille garde, avec Pedro Almodovar et son autofiction, et la relativement jeune garde, incarnée par un Rodrigo Sorogoyen qui ne cesse de monter, et qui accède enfin à la compétition officielle du plus grand festival de cinéma au monde, avec El Ser Querido ou L'être aimé chez nous. Et oui, Asbestas n'avait été que sélectionné à Cannes Première en 2022. Alors comme Almodovar, il s'agit d'un film mettant en scène un metteur en scène qui est célébré et qui va se mettre en péril en essayant de faire intervenir quelque chose de très personnel dans la conception de son œuvre suivante. Chez Sorogoyen, ce réalisateur est Esteban Martinez, un enfant prodigue et ex-enfant terrible, plusieurs fois oscarisé, qui revient en Espagne pour préparer son prochain film. Alors il décide d'offrir le rôle principal à une jeune actrice inconnue, Emilia, qui est en fait sa fille qu'il n'a pas vue depuis 13 ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais c'est qu'à l'occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu'elle n'a jamais pu considéré comme un père et qui véhicule un lourd passé affectif. Le poids forcément écrasant de ce passé s'insinue entre le père et la fille au fur et à mesure que le film avance et menace de faire bien plus de dégâts qu'une prise ratée. Derrière la légende, il y a toujours un homme et cet homme, il est peut-être complexe.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Hace muchos años, ¿no?
13 años.
Bueno, la película se llama Desierto. Y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela.
Vale, corta.
C'est amusant car on pourrait facilement séparer la filmographie de Sorogoyen en deux côtés bien distincts. Hein. On pourrait dire que d'un côté, il y a les thrillers ou les polars, hein, comme El Reno, hein, Que Dios nos perdone ou Asbestas, et de l'autre, bah, les drames sentimentaux ou psychologiques comme Stockholm, Madré, sa série Los Años Nuevos, ou encore Cet être aimé. Ce serait oublier que tous ont les mêmes thématiques et donc interrogation, hein, à savoir la place légitime que l'on prend, que l'on pense avoir ou que l'on devrait avoir, le syndrome de l'imposteur et la difficulté de se créer une identité propre et légitime. Alors c'est le cas, hein, des milliers dans le film. Il y a aussi une étude, hein, du temps, le temps qui passe vite ou très lentement, mais aussi l'impact de ce que le temps sème dans les vies des gens, ou comment un acte ou une action vont modifier à court ou long terme les destinées des personnes concernées, mais aussi leur entourage. Alors l'image publique, hein, qu'elle soit due à un métier, un poste officiel important ou carrément mise en avant ici puisqu'il s'agit d'un réalisateur se mettant à nu, est aussi un écrin dans lequel Sorogoyen aime soupeser le vrai du faux pour interroger une réalité bien tangible, mais éloignée de toute idée préconçue ou manichéenne. Alors peu importe, hein, donc, que le pitch semble être exactement le même que celui de Valeurs Sentimentales, hein, de Joachim Trier sorti l'année dernière, le traitement est complètement différent et 100% Sorogoyen.
Es una historia de traición, es una historia de abandono.
¡Ay, ya ha llegado!
Es una historia de amor. Es una historia de gente que no puede mirarse a los ojos.
Là où l'être aimé marque ses plus grands points et son travail au corps de ses deux personnages principaux. Esteban semble détestable, mais nous ne le voyons qu'aujourd'hui, une fois assagi. Alors ne reste qu'un orgueil, mais aussi l'exigence d'un réalisateur à l'ancienne qui laisse place à l'interprétation. Il en est de même pour Emilia, certes à fleur de peau, mais pas forcément gentille ni toujours sympathique, pour autant. L'être aimé peut être pris dans les deux sens, envers l'un ou envers l'autre, rééquilibrant ce bras de fer émotionnel. Emilia est parfois un double, un miroir de son père, pas forcément complet, jusque dans les travers visibles comme l'alcoolisme. Alors on se souvient qu'Asbestas était coupé en deux, avec dans une première partie le regard masculin, puis ensuite le regard féminin de la même histoire. Ici, il y a une intervention d'une caméra en noir et blanc, qui dédouble celle qui nous permet de suivre au plus près l'histoire. Cette première caméra, l'officielle, elle est à l'épaule, elle est proche, elle est intime. Elle nous montre les émotions à fleur de peau du père et de la fille, jusqu'à obstruer les regards dans la scène d'introduction. La seconde, celle qui est en noir et blanc, elle nous laisse voir une situation plus officielle, plus glacée, plus figée, entre la représentation, le faux, et donc quelque chose d'inaccessible. Ce procédé, coincé entre Bergman, Woody Allen ou Oliver Stone, n'est ici pas forcément très pertinent ou très heureux, mais ne freine aucunement les comédiens dans leur performance. C'est eux en particulier, avec la direction d'acteur de Sorogoyen, qui rendent la vision du film vraiment incontournable.
Ce film, L'être aimé, est donc projeté actuellement dans les salles. Le célèbre chasseur de primes Din Djarin et Grogu reprennent la route dans une nouvelle aventure au cœur de l'univers Star Wars. Vous êtes sans doute pas passé à côté, nous en parlons.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Nous connaissons tous les légendes du chasseur de primes mandalorien et de l'enfant.
Je ne traque que des criminels de guerre impériaux. On va tous les éliminer les uns après les autres.
Vaste projet. La saga Star Wars est l'une des plus prolifiques du cinéma avec 12 longs métrages, dont les 9 de la saga Skywalker. Pour continuer cet univers, les studios Disney ont exploré plusieurs pistes. D'abord les spin-offs avec sans doute l'un des meilleurs films de toute la saga, Rogue One, qui est sorti en 2016. Et puis il y a eu toutes les séries diffusées sur Disney+, dans lesquelles on suivait par exemple Boba Fett, Obi-Wan Kenobi ou encore Le Chasseur de Primes de Mandalorian, chargé de capturer un bébé Yoda dont il va finalement s'enticher au point de le protéger au péril de sa vie. Il y a eu 3 saisons de cette histoire et voilà maintenant le film qui poursuit les aventures de ces deux personnages attachants. D'abord le chasseur de primes Din Djarin qui doit sans cesse garder son casque car telle est la loi mandalorienne, puis Grogu, le bébé Yoda qui oscille entre puérilité et vaillance. Ainsi, le duo se compose d'une brute anonyme et d'un enfant.
Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de prévenir une guerre de plus.
Allez, monte.
Mandalorien, tu vas souffrir. Ensuite, ce sera son tour.
Vous êtes des monstres. Les anciens veillent sur les jeunes. Avant que les jeunes... ne veillent sur les anciens. Telle est la voie.
La question qu'on peut se poser, hein, c'est qu'apporte un long métrage par rapport à la série dont le principal défaut était d'être construit toujours de la même manière. Un défi, une grosse baston, les personnages en péril, puis finalement indemne. Sur ce point-là, il peut y avoir une pointe de déception. Le film fait directement suite donc à la saison 3 de Mandalorian. Din Djarin a conclu un accord secret avec la Nouvelle République pour traquer les restes de l'Empire qui se cachent dans les bordures extérieures de la galaxie. Et dans leur mission, Mando et Grogu partent sauver Rota, le fils de Jabba de Hutt, l'être hideux hein, du retour du Jedi. Dans leurs aventures, ils croisent aussi la route d'Embo, chasseur de primes redoutable et très photogénique, d'une grande agilité. Alors il faut bien l'avouer que c'est le service minimum et que l'aventure qu'on nous sert ici ressemble à celle que l'on pouvait voir eh bien, dans la série. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le personnage du Mandalorian apparaît davantage mystérieux. Il est peu fait cas du code de ces chasseurs de primes sectaires. Dans la série, la phrase « This is the way » est régulièrement répétée pour affirmer la rigidité de cette congrégation. Et si quelqu'un eh bien, voit son visage, eh bien, le Mandalorian perd son statut, à moins de tuer celui qui a vu son visage. Hein. Il y a davantage de combats quand même et de monstres que dans la série, avec des créatures vraiment hideuses et assoiffées de sang. C'est là le principal atout finalement du film. Pour ceux qui ont vu la série, le film se présente comme un long épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, probable que cette aventure manque d'enjeux et de rebondissements. Les combats sont peu convaincants d'ailleurs, je trouve. Il reste tout de même la facture visuelle, toujours soignée avec un supplément vintage assumé. Dans Star Wars, rien n'est lisse, sauf dans les vaisseaux de l'Empire. Ailleurs, le métal s'écaille ou rouille. Donc si on aime cet univers, on est comblé. Moi, j'avoue que je suis un grand fan de la série, donc j'ai regardé le film avec plaisir, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de très réussi. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce film Grogu et The Mandalorian. Échappé d'un élevage industriel, une poule trouve refuge dans un restaurant abandonné et se bat pour protéger ses œufs. Nous parlons de Cocotte, d'un excellent réalisateur hongrois.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors quand on vous dit qu'il y a un film en salle cette semaine dont le personnage principal est une poule, vous vous dites peut-être que c'est une bonne occasion pour emmener les enfants ou alors pour carrément passer votre tour. Et pourtant, Georgi Palfist, un cinéaste hongrois qu'on n'avait plus tellement vu dans les salles françaises depuis près de 20 ans. À l'époque, il avait marqué les esprits avec Ick, puis surtout Taxidermie, film complètement fou et dérangeant, devenu culte pour toute une génération de cinéphiles un peu masochiste. Et le voilà qui revient avec ce qui ressemble sur le papier à son projet le plus absurde, faire d'une poule l'héroïne d'une fable politique sur l'exil, la violence sociale et la survie. Alors, il n'est pas le premier à confier son film à un animal. Robert Bresson l'avait fait avec un âne dans Au hasard Balthazar. Jerry Skolimowski aussi, plus récemment avec Eo. Palme du jury à Cannes en 2022. Mais là où ces deux films gardaient une certaine distance poétique, hein, Palfi fait quelque chose de plus frontal et d'assez unique. Les enfants n'y trouveront pas forcément leur compte. C'est assurément un conte pour adultes.
Stone and cobblestone's zone. Far, far, far away, the cowboy went alone.
Le film suit donc une poule noire née dans un élevage industriel, Kota. Jugée défectueuse à cause de son apparence, elle se fait écarter, échappe à l'abattoir et finit par trouver refuge dans le poulailler d'un petit restaurant familial quelque part en Grèce. Là, elle tente simplement de survivre, de vivre sa brève idylle avec le coq local, puis surtout de protéger ses œufs. Alors oui, le film assume totalement sa dimension de mélodrame animalier. Mais autour d'elle, les humains racontent une autre histoire. La famille qui l'accueille baigne jusqu'au cou dans un réseau de trafic de migrants clandestins. Des hommes, des femmes et des enfants aussi hein, traversent les frontières par la mer, puis se font cacher dans des camions déplacés comme des marchandises, exploités par tout un système économique souterrain. Et peu à peu, le film crée un parallèle très clair entre le destin de cette poule rejetée et celui des personnes migrantes. Mais il transforme aussi Kota d'une simple témoin en complice tristement responsable.
crois pas.
Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.
Ce qu'il y a d'impressionnant d'abord, c'est évidemment la mise en scène. Palfy filme cette poule comme une véritable actrice de cinéma. Il y a des plans où l'on oublie complètement qu'on regarde un animal. 8 poules, créditées au générique, ont été utilisées pour le tournage, sans effet numérique visible, et la direction photo, signée Yorgos Karvelas, est assez incroyable. On se demande constamment comment certaines scènes ont été fabriquées. Mais le plus intéressant, c'est la manière dont le film utilise cette idée presque absurde pour parler de domination et d'exclusion sans devenir un manifeste à gros sabots. Cette poule noire rejetée parce qu'elle ne correspond pas aux standards d'un élevage industriel, intégrée de force dans un groupe homogène qui la rejette immédiatement, la métaphore est limpide, Palfy ne cherche même pas vraiment à la cacher. Et on pense à ce moment-là à Fuoco Amare de Gianfranco Rosi, Ours d'or à Berlin en 2016, qui utilisait un dispositif comparable. Un petit garçon qui vit sa vie ordinaire sur l'île de Lampedusa, pendant qu'au large se joue le drame des traversées en Méditerranée. Deux mondes qui coexistent sans vraiment se toucher et dont le montage révèle l'horreur. Palfy fait quelque chose d'analogue en poussant le curseur du grotesque et de la fable. Et il parvient à tisser un double discours. Cotta peut à la fois être victime et malgré elle, bourreau, une tension injectée ponctuellement au récit qui prend alors des allures de thriller, savamment contrebalancée par un humour très sec, parfois complètement burlesque, notamment dans la romance entre la poule et le coq du poulailler. Et c'est précisément cette légèreté qui permet au film d'éviter le piège du discours démonstratif. Alors tout n'est pas parfait, le scénario se disperse parfois et certains personnages restent trop esquissés pour que la tragédie humaine atteigne toute sa puissance émotionnelle, mais malgré ça, le cinéaste réussit quelque chose de très rare, utilise le regard totalement innocent d'un animal sans anthropomorphisme pour raconter le pire du comportement humain et le faire sans cynisme. Donc dans un monde où les personnes exilées sont traitées comme des marchandises qu'on transporte, qu'on cache et qu'on exploite, il fallait peut-être le regard d'une poule pour redonner un peu d'humanité à tout ça.
Ce film, Cocotte, est en salle depuis le 26 mai. Pris dans une boucle temporelle au cœur d'une guerre contre des créatures extraterrestres, un soldat revit sans cesse le même combat. Tiens, ça vous dit quelque chose, mais nous parlons de All You Need Is Kill.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Ça, c'est clair.
Et oui, c'est un peu une histoire, encore une fois, à l'Akira, dans ce futur proche. Ce Japon se reconstruit après l'invasion d'une gigantesque fleur, cette fois-ci extraterrestre. Quand elle rentre en éruption et libère des créatures dévastatrices, alors l'héroïne Rita meurt avant de se réveiller, comme tu l'as dit, au début de la même journée. Alors, elle est bien sûr prisonnière d'une boucle temporelle. Elle revit sans cesse cette bataille dans laquelle elle est prise. Elle rencontre Keiji, lui aussi piégé dans le cycle, et ensemble, ils vont tenter de la briser, cette boucle temporelle, ou mourir pour toujours. Bien évidemment, si ce pitch vous semble familier, c'est tout à fait normal parce que vous avez sûrement vu son adaptation américaine en 2014 qui s'appelle Edge of Tomorrow. À la base, c'est un roman japonais du même nom, sorti en 2004.
Après tout, la mort est de mon côté. Je suis la seule à savoir ce qui va se passer. Un peu comme dans un jeu vidéo.
Alors, j'ai déjà parlé très récemment du studio C4 ou 4 degrés Celsius, puisqu'on a, j'ai chroniqué pas plus tard qu'il y a quelques semaines, leur dernier film Ciao. Donc ici, la narration est moins fantasque, même si elle se colle à la boucle du Die and Retry, soit le mourir et recommencer cher au jeu vidéo, et puis parce qu'elle suit celle du roman d'origine. Mais l'animation, si elle est un petit peu plus polissée, elle reste tout aussi vive, ce à quoi le studio nous avait quand même pas mal habitués. Alors, 12 ans après Age of Tomorrow, c'est intéressant de voir que le récit revient au Japon et le voir aussi prendre les yeux du personnage joué dans sa première adaptation par Emily Blunt. Autant le dire, All You Need Is Kill ne possède pas vraiment l'efficacité nerveuse et le côté assez ludique d'Age of Tomorrow, mais il impressionne par la puissance de ses images et par son atmosphère, ici plus noire, qui facilite l'immersion dans un univers décidément bien plus riche qu'une simple succès d'année de la comédie culte Un jour sans fin. Le principal défaut du film, ça reste son manque de longueur parce qu'il ne dure qu'1h25 et donc l'histoire est assez expédiée malgré un focus sur le sentiment de solitude qu'entraîne la fameuse boucle temporelle. Les personnages, leur passé et l'univers militaire auraient mérité davantage de développement, tout comme un dernier acte un petit peu plus ample pour donner plus de force au climax. C'est amusant parce que le film d'origine, Edge of Tomorrow, avait lui aussi été critiqué pour son climax. Donc voilà, quoi que ce soit américain ou japonais, il y a toujours des petits problèmes d'adaptation, mais ça vaut quand même le détour.
Ce film d'animation est dans les salles.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine, tu auras deux films, Guillaume.
Oui, D'où vient le vent et Vol de nuit pour Los Angeles.
Et moi, je vous parlerai d'un très bon film de Cannes 2025 qui s'appelait La Peste. À la semaine prochaine.